Journée internationale contre la fracturation hydraulique ce samedi 19 octobre. En anglais, ça s'appelle le Global Frackdown. Pour en parler, on accueille deux personnes du collectif Ouille, 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 Pierre Rose et Christine Poyi. Bonjour à vous deux.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, quand on parle de fracturation hydraulique, de quoi parle-t-on finalement ? Christine ?
Alors, quand on parle de fracturation hydraulique, on parle de gaz de schiste. Il s'agit d'aller fracturer la roche, puisque les gaz de schiste sont répartis en petites poches dans une roche assez compacte. Et la seule façon de pouvoir les récupérer, c'est de fracturer la roche. Pour fracturer cette roche, on fait un trou, un puits vertical, puis un forage horizontal. On y injecte à peu près 20 000 mètres cubes d'eau, additionné de nombreux produits chimiques, des gélifiants, des épaississants, des choses pas très sympathiques, hein, du benzène, du xylène, des alcools, des composés organiques de toutes sortes, et aussi du sable pour maintenir les fractures ouvertes.
Alors on va reparler des risques liés à l'exploitation de ces gaz, mais quand on parle de gaz de schiste, gaz de couche, gaz de mine, hein, c'est pour fabriquer de l'énergie. Et quelle différence entre gaz de schiste, couche, mine, Pierre ?
Alors gaz de schiste, donc ça concerne plutôt les régions du sud de la France, tandis que le gaz de mine et gaz de couche, ça nous concerne. Alors faut bien faire la différence entre les deux parce que il y a justement une volonté de la part d'un certain nombre d'industriels et de la part de certains ministres de faire la confusion volontaire, c'est-à-dire de parler de gaz de couche en laissant croire que c'est du gaz de mine. Alors le gaz de mine, c'est quoi ? C'est le grisou, tout simplement. C'est-à-dire que c'est dans notre secteur, on a trois endroits qui ont des réserves de grisou et on le récupère parce que c'est pour la sécurité des habitants, de ceux qui habitent à côté. C'est donc important de récupérer ce grisou qui a été extrait à cause de l'exploitation des mines. C'est pour ça qu'on parle de gaz de mine. Et le gaz de couche, par contre, c'est justement un gaz que l'on va récupérer dans le charbon ou en dessous des couches de charbon. Et là, on a besoin effectivement d'utiliser à terme la fracturation hydraulique. Donc on va nettement en dessous, on va au moins à 1200 mètres dans la région, à 450 jusqu'à 1000 mètres dans la région de Lorraine. Et c'est ça qui est en question actuellement, c'est-à-dire que ça n'est rien d'autre. Donc c'est ça, là qu'il y a problème et c'est là-dessus qu'on pose les questions très précises pour pouvoir montrer qu'il ne faut certainement pas récupérer le gaz de couche, c'est-à-dire le méthane aussi.
Alors les gaz de couche, gaz de schiste, sont présentés comme un nouvel Eldorado énergétique, hein, une manière de sortir de l'équation nucléaire ou charbon. Hein, c'est comme ça que c'est envisagé en tout cas déjà aux États-Unis et puis aussi donc maintenant en France par certains industriels. On a parlé un petit peu des risques, mais est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu quels autres risques sont liés à l'exploitation de ces gaz ?
Des risques de plusieurs sortes. Le principal risque, bien sûr, c'est l'eau. Dans la région, EGL nous dit que les charbons sont déjà suffisamment fracturés. EGL, c'est European Gas Limited, c'est la société qui va faire les forages dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est elle aussi qui fait les forages en Lorraine. Et ils nous disent que les charbons sont très fracturés. Mais alors, si les charbons sont très fracturés, et au-dessus des charbons, on a de la craie qui est aussi pas mal fracturée. Par conséquent, quand on va faire des forages horizontaux, on va rencontrer des fissures naturelles de la roche qui vont laisser passer aussi le méthane qui va remonter et aussi tout ce qu'on injectera dans le puits. S'il y a une nappe phréatique au-dessus du forage, ben, c'est un peu dommage parce qu'elle sera traversée potentiellement par tous les gaz qui remonteront. Le deuxième problème sur l'eau, c'est qu'on va faire des forages en profondeur. Chez nous, on est à peu près entre 1200 et 1600 mètres pour les travaux qui vont être autorisés. Et à cette profondeur-là, il y a des shales noires qui sont très riches en métaux lourds, notamment en uranium, en métaux très lourds, et qui vont remonter avec les bouts de forage. Bien sûr, ça va potentiellement contaminer les eaux, d'autant que ces bouts de forage, on ne sait pas comment elles seront retraitées. Et que les eaux d'exor, c'est-à-dire les eaux qu'on pompe pour créer une dépression, elles vont aussi remonter. Ce sont des eaux profondes qui sont aussi chargées de métaux lourds puisqu'elles baignent les charbons. Donc, c'est un problème puisque GL se propose de les soit les vendre à des agriculteurs, soit les vendre à des industriels, soit tout bonnement les remettre dans les cours d'eau. C'est un deuxième problème sur l'eau qui est loin d'être négligeable. Et puis des problèmes de séisme. En Angleterre, par exemple, il y a eu un moratoire d'un an parce qu'on s'était aperçu que non loin des forages, le risque de séisme augmentait énormément. Des séismes dans une région comme la nôtre, qui est traversée à peu près par 100 000 km de galeries, dues aux activités minières sur le charbon, ben c'est problématique parce que les séismes risquent tout simplement de créer des affaissements.
Oui, puisque la première question qui était posée, c'était les perspectives, la possibilité d'indépendance énergétique. Alors là, c'est toujours la même chose, c'est toujours un leurre. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'avoir découvert l'Amérique, hein. On nous a fait le coup avec le nucléaire, c'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on aura une indépendance énergétique, ce qui est archi faux, puisqu'il faut aller chercher l'uranium, en particulier en Afrique et au Niger. Là, on nous refait la même chose, c'est-à-dire que là, ce sont des industriels qui ont fait des prospections et qui sont en même temps juges et parties et qui disent qu'il y a beaucoup, beaucoup de méthane. Donc à partir de là, sur quoi se fier, il n'y a pas d'analyse véritable, il n'y a pas d'analyse qui soit impartiale, oui, tout à fait. Et donc on est né exactement à cette situation. Cette situation, les USA l'ont rencontrée, c'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient aussi un Eldorado. Ils l'ont eu pendant un certain temps, on est déjà au ce qu'on appelle le pic, c'est-à-dire que maintenant on est déjà dans la descente. Et ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire que ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que si on veut fracturer tout ça, c'est ce que disait Christine, après, il y aura des dégâts. C'est-à-dire que non seulement on nous fait croire qu'il y aura des créations d'emplois, il y aura 2 emplois par puits. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va effectivement récupérer tous les chômeurs du Nord-Pas-de-Calais pour pouvoir utiliser en fractionnant. Et puis, surtout, ce qu'il y a comme risque, c'est de faire exactement la même chose que pour Metal Europe, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de boulot à faire après et puis embaucher des gens pour traiter tout ce qui aurait été de la pollution, tout ce qui aurait été affaissement minier, etc. Et là, ce ne sera pas sur le compte des industriels, ce sera sur le compte évidemment de l'État, comme pour Metal Europe.
Alors je reviens sur l'histoire de la pollution de l'eau. Est-ce que justement ces pollutions de nappes phréatiques, on les observe déjà aux États-Unis ?
Bien sûr, on les observe aux États-Unis. D'ailleurs, si vous avez vu le film Gasland, à un moment, la dame enflamme l'eau qui sort de son robinet. C'est tout bonnement la nappe phréatique qui a été saturée par le méthane qui remonte. Il y a d'ailleurs pas mal de problèmes de santé qu'on est en train de découvrir actuellement. Et puis, il y a eu de grandes inondations récemment, notamment en Californie et dans l'État du Colorado. Et il y avait 20 000 puits sous l'eau. Non seulement il y avait 20 000 puits sous l'eau, mais il y avait aussi tous les hangars de produits chimiques qui étaient stockés, etc. Donc de grosses catastrophes sur l'eau. Et qui peut nous garantir qu'il n'y aura pas d'inondation dans le Nord ? Alors, pour illustrer ce que disait Pierre tout à l'heure, on estime que dans le bassin minier, il y a à peu près 9 ans de la consommation française. Bien sûr, ça ne s'arrêtera pas à 9 ans parce qu'on ne couvrira pas toute la consommation française en une seule fois. Mais est-ce que ça vaut le coup de créer autant de dégâts environnementaux pour 9 ans de consommation française ? Il n'y a pas urgence à exploiter le gaz. Il y a urgence à attendre. Après tout, si un jour on trouvait une technique un peu moins polluante, nos petits-enfants pourraient toujours l'exploiter.
De conséquences sur les nappes phréatiques, sur aussi les risques de séisme et d'effondrement du sous-sol. Il y a aussi la question du bilan carbone qui pose des questions aussi.
Alors sur ce point, c'est très clair, c'est-à-dire que le méthane est 20 fois plus polluant que le charbon. Donc, comme on demande pour l'instant à ce qu'on diminue notre pollution, on ne va certainement pas se lancer dans une production qui est polluante au plus haut point. Et il faudrait être raisonnable. Le seul problème, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes. Alors, il y a deux sortes de personnes qui sont dans le coup, c'est-à-dire d'une part il y a un ministre en particulier qui est persuadé qu'on va s'en sortir grâce à cette nouvelle production énergétique, donc c'est Monsieur Montebourg, mais le problème c'est qu'on est dans une région qui a été évidemment très industrielle, et ce qui veut dire qu'on a toujours recherché un emploi dans ce secteur, et non seulement on est persuadé qu'on va retrouver des emplois du même style, mais c'est aussi la pensée qu'ont un certain nombre d'élus en particulier, je ne vais pas citer des noms, mais ce ne sont pas les Verts évidemment, mais malgré tout on a toujours une envie d'essayer de retrouver, de résorber le chômage de cette façon-là. Alors le problème, c'est de savoir aussi comment il faut travailler. C'est-à-dire que est-ce que le côté social doit être dissocié du côté environnemental? Et ça, c'est la grande question qu'on a dans la région. Et il faut commencer à se poser des questions sur les dégâts qui ont été occasionnés par toute la politique industrielle que l'on a eue dans la région. Et certainement pas penser, comme certains disent, la région du Nord, la région de Lorraine et tout ça, c'est une région qui a été exploitée. Il faut l'exploiter à fond la caisse. Là, on va protéger le Sud, mais là, ce sont des régions qui sont condamnées. C'est ça qui a été dit par des industriels. C'est tout de même scandaleux parce qu'on a le droit de vivre de la même façon et il faut essayer de trouver des formes de vie.
On est toujours avec Christine Poilly et Pierre Rose, deux membres du collectif Ouille, Ouille, Ouille. On parle toujours de cette journée internationale contre la fracturation hydraulique. Ça se passe ce samedi, journée pour dire non à l'exploitation des gaz de couche. Alors justement, dans la région, où en est-on? Est-ce qu'il y a des autorisations d'exploiter qui ont été délivrées?
Dans la région, on a une très grande concession historique qui demande le renouvellement pour 25 ans. Là, l'enquête publique va démarrer le 5 novembre. Et on a trois permis d'exploration, trois permis exclusifs d'exploration. L'un, c'est le permis du Sud-Midi, c'est la région d'Arras, justement. Le deuxième, c'est le permis du Valenciennois. Et le troisième, un nouveau permis qui vient d'être mis en concurrence européenne du côté de Cambrai. Les trois permis plus la concession ensemble, c'est 3000 km² dans la région. Donc une surface énorme. C'est une surface dans laquelle les industriels peuvent faire des trous un peu partout pour faire de l'exploration. Pour l'instant, il y a eu 4 demandes d'autorisation de travaux. Avion, Divion, Bouvigny-Boyeff, les Crépins. Crépin et Bouvigny-Boyeff, l'autorisation de travaux a été refusée. Mais par contre, Avion et Divion, l'autorisation de travaux est accordée par un arrêté préfectoral de juillet 2013.
Alors pour bien comprendre la situation, donc des autorisations d'explorer, mais pas d'exploiter, puisqu'en France, ce n'est pas pour l'instant autorisé, c'est ça, hein?
Voilà. Donc en fait, effectivement, avant d'exploiter, il faut d'abord explorer pour voir un petit peu si c'est utile d'aller à tel endroit. Donc EGL, qui doit s'occuper de ces explorations, n'a pas la capacité à exploiter. Donc son discours est très simple, il est de dire « nous, on ne va pas fracturer ». C'est vrai, c'est-à-dire que dans l'exploration, on n'a pas besoin de fracturer. Sauf qu'après, il va passer le relais à une autre entreprise qui s'appelle Transcor, et cette entreprise, elle va exploiter, et comme ça a été dit tout à l'heure par Christine, quand on aura fait des forages horizontaux, il faudra balayer pour essayer de récupérer le plus possible de méthane, et pour récupérer ce méthane, il faudra fracturer. Et donc, évidemment, on joue sur les mots, c'est-à-dire qu'on pense que on ne va s'arrêter qu'à cette partie simplificatrice, c'est-à-dire l'exploration. Mais on sait très bien que l'exploration, ça n'a aucun intérêt pour les industriels. Ce qui est important, c'est l'exploitation. Par rapport à deux endroits où EGL peut agir, c'est donc Avion et Divion. Ce sont des mairies qui, pour l'instant, n'ont pas l'air de vouloir se rendre compte du danger que ça peut occasionner. Donc c'est l'occasion de dire que c'est extrêmement important d'avancer pour pouvoir s'opposer à ce... Même si effectivement la décision ne peut pas être prise par un maire, mais c'est pris par le préfet. Mais ça veut dire qu'il faut savoir mobiliser dans ces secteurs. Et notre slogan est tout de même assez simple, hein, c'est-à-dire que c'est ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain. Ça veut dire que c'est très clair que c'est pas... On ne travaille pas uniquement pour Avion, pour Divion, on travaille pour un endroit, et donc il paraît important d'essayer de mobiliser évidemment sur le terrain avec des collectifs locaux, etc. Et donc il faut que la population et les élus soient sensibilisés à cette question qui nous paraît très importante.
Alors justement, ça fait partie du travail de votre association, hein, des bénévoles qui s'investissent pour déjà récolter l'information et puis aussi échanger avec la population sur place, les premiers concernés, hein, là où les puits vont être forés, quoi. Comment ça se passe sur place? Est-ce que les gens s'y intéressent ou ça leur paraît abstrait, ou comment ça se passe?
On est à peu près à une 17 ou 18 réunions là, en un an. On essaie de faire le tour des petites communes. Alors, mais le problème, c'est qu'au départ, on ne connaissait pas du tout les lieux possibles de demande de travaux. Donc, il fallait cibler un petit peu toute la région. C'est un travail de titan, hein, parce qu'on n'est pas très nombreux. On est allé pas mal, parce qu'on a eu beaucoup d'invitations, et puis c'était plus facile de trouver des salles. On est allé pas mal sur le permis du Valenciennois. Avec deux nouvelles positives. La première, c'est que l'autorisation de travaux à Crépin n'a pas été donnée. Et la deuxième, c'est qu'un collectif local se crée à Crépin. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisqu'ils pourront mener leur bataille au moins sur le permis du Valenciennois. Et nous, on pourra continuer sur les deux autres permis et la concession.
Quand même, on a l'impression qu'il y a une faible mobilisation par rapport au sud de la France ou d'autres endroits dans la France contre les gaz de schiste. Comment ça se passe dans la région Nord-Pas-de-Calais?
Oui, effectivement, on a un retard assez important par rapport à ce qui se passe dans le sud. On aurait du mal pour l'instant à mobiliser 800 personnes un 30 août. Mais on ne désespère pas, c'est-à-dire qu'on pense que ce qui va se passer dans les jours à venir, ça nous permettra de voir un petit peu quel est le degré de sensibilité, et surtout essayer de montrer que dans la région, il n'y a pas que le gaz de couche, mais il y a aussi d'autres problématiques qui sont importantes et qu'il faut essayer de se rassembler, de rester collectif pour pouvoir essayer de gagner sur un certain nombre de terrains. On a soutenu, par exemple, le rassemblement qui a eu lieu à Druca dans la Somme, à propos de l'usine des mille vaches. C'est pas notre domaine, mais c'est montrer qu'il y a un certain nombre de choses qui sont complètement inutiles, nuisibles et imposées. Donc ça veut dire que sur ce terrain-là, on espère, on pense qu'il commence à y avoir une sensibilisation, et ça peut permettre justement d'avancer dans le sens qu'on propose, surtout qu'on a aussi comme objectif, de ce que disait Christine, ça commence à se concrétiser dans le Valenciennois, mais c'est de créer des collectifs véritablement locaux. Et ça c'est un moyen pour pouvoir être encore plus au point et puis réactif quand il y aura quelque chose qui se passera. C'est comme en Lorraine, par exemple, actuellement, il y a une plateforme qui commence à être installée, les gens sont déjà au courant, donc il commence à y avoir un début de mobilisation. Donc c'est le meilleur moyen d'être informé par les gens qui sont sur place.
Pierre Rose et Christine Poyer du collectif Ouyouyouy. Ce collectif précise que si le Conseil constitutionnel a récemment retoqué une entreprise texane qui voulait faire de la fracturation hydraulique, les problèmes demeurent, notamment en Lorraine. EGL installe actuellement du matériel pour explorer. Alors, le collectif précise que toute la propagande actuelle est de faire croire que la récupération du gaz de couche ne nécessite pas de fracturation hydraulique. Alors, pour en savoir plus sur le sujet, il y a le site du collectif régional, donc ouyouyouy5962.com. Alors, le premier ouy avec un H et puis des tirés entre les mots. Vous retrouverez le lien sur notre site internet www.radiopfm.com. Donc ce samedi, c'est la journée internationale contre la fracturation hydraulique, le Global Frackdown. Des événements et des manifs sont organisés partout dans le monde. Et dans la région, il y a deux manifs prévus. À Lille, manif au départ de la place de la République ce samedi à 14h. Et puis à Boulogne-sur-Mer, rendez-vous devant l'Arbre de la Paix, boulevard Urvin, ce samedi 14h. Dernière petite info pour vous dire que les collectifs anti-gaz de couche, anti-gaz de schiste appellent à des manifestations, mais aussi à faire preuve d'imagination pour attirer l'attention des citoyens sur ces questions. Et puis il y a des actions coup de poing qui sont envisagées, comme par exemple celle qui s'est passée à Jouarre en Seine-et-Marne fin septembre, où des militants s'étaient enchaînés pendant quelques heures à une plateforme de forage.